Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un dessinateur bien connu de certains que je reçois ce matin. Converti, apôtre à sa manière, s'est invité à de multiples talents, conteur, illustrateur, féru de philosophie, de théologie et de sciences. Avec les années, notre homme a accouché d'une série de BD qui lui font faire le tour de la France, Les Indispensables, sorte de roman policier en BD, pour introduire le lecteur aux raisons de croire, une série surtitrée Enquête sur Dieu. Brunor, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'allais dire, Brunor, c'est votre nom de plume ou quel est...
C'est mon nom de plume à partir de mon prénom et de la première lettre de mon nom de famille.
Voilà. D'accord, et on a le droit de les connaître ou c'est
un secret ? Rabondin, mais bon, c'est en tout cas Brunor et c'était au départ une erreur dans un livre. L'imprimeur avait oublié de mettre le point, Bruno.R, et ça a donné Brunor, voilà.
Très bien. Alors on vous reçoit en tout cas avec joie, je crois que vous aviez des habitudes avec Sabine Caz, donc, qui m'a précédé à ce poste, et on vous reçoit entre autres donc pour parler, pas seulement, hein, de vous et de votre dernier album, Les Jours Effacés, donc paru aux éditions Brunor. Mais alors comme moi je ne vous ai jamais reçu, j'en profite pour brasser large ou faire une espèce de récapitulatif. Je disais en introduction, un certain nombre de personnes vous connaissent, vous faites partie des dessinateurs chrétiens, tiens, on va dire connu dans le paysage pour ceux qui sont attentifs à cet univers-là. Et donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, quand on regarde sur Internet, on trouve de quoi. Vous avez fait quelques émissions, entre autres l'émission VIP sur KTO. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du Brunor des débuts? Je ne sais pas dans quel univers vous avez grandi. Quelles sont un peu vos racines?
Oui, eh ben écoutez, moi j'ai beaucoup bénéficié du scoutisme, par exemple, à Paris, où je suis l'aîné d'une famille de trois garçons. Et voilà, je me suis bien impliqué dans ce jeu, hein, comme disait Baden-Powell. Et j'ai été d'ailleurs le chef pionnier pour finir. Et voilà, et ça, je crois que ça a pas mal compté dans ma vie, souci des autres, souci de faire des trucs avec d'autres. Pour les autres, bon, on a fait beaucoup de tournées théâtrales. C'était un scoutisme particulier. On faisait surtout on choisissait nos objectifs. On a fait des tournées théâtrales. On a été au Maroc jouer Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'était en Suisse, à vélo. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui m'ont sans doute beaucoup sorti de ma timidité, qui était un peu maladive au départ. Et je me doutais jamais qu'un jour je parlerais sur des radios ou dans des télés ou même des conférences pour des centaines de jeunes. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur nous conduit, nous guérit progressivement.
D'accord, donc en tout cas de vos racines, vous citeriez surtout le scoutisme. Vous êtes né dans une famille donc chrétienne.
Oui, une famille chrétienne dont j'ai remis un peu en cause le christianisme par la suite, comme à mon époque. Hein, c'était dans les années 68 quand même que j'étais ado. Et voilà, j'avais besoin de peut-être de... Je me rendais compte que la prière, j'aimais bien ça, ces temps de prière, seul ou avec d'autres, mais est-ce qu'il y avait vraiment un père qui entendait quand je disais notre père? C'était ma question, voilà.
Alors on va parler un tout petit peu avant de parler de votre conversion. Vous en parlez enfin dans différentes interviews, mais peut-être que tout le monde ne les a pas entendues. En tout cas, c'était pas mon cas. Assez rapidement, en fait, vous devenez, vous travaillez comme dessinateur ou comme illustrateur. J'ai compris que vous n'aviez pas travaillé à votre compte tout de suite, mais que ça fait partie de vos talents premiers.
Bah, j'ai eu beaucoup de chance. J'aimais beaucoup le dessin, mais je pensais absolument pas pouvoir gagner ma vie avec ça, hein. Et il y avait pas d'école, surtout en BD en France. Enfin, bon, je voyais pas trop ma place dans ce monde, et donc j'ai choisi d'abord, me suis orienté vers l'architecture, ensuite vers prof de dessin, en me disant que je ferais des dessins en parallèle. Et puis ça aussi, ça semblait bouché. Mais bref, j'ai eu la chance d'être embauché aux Orphelins d'Auteuil, ce qu'on appelait les Orphelins d'Auteuil, ça s'appelle maintenant Apprentis d'Auteuil. Et travailler pour eux comme dessinateur, en freelance, et puis aussi très vite comme journaliste scripturaire, enfin rédactionnel. Et alors ça a été très formateur, parce que ça m'a donné l'occasion de parler avec énormément d'ados en grande difficulté, enfin familiale ou sociale, qui étaient accueillis dans les différentes maisons d'Auteuil. Et vous savez, quand un jeune qui a perdu ses parents dans un accident de voiture vous pose des questions sur Dieu, la foi, Jésus-Christ, on hésite, on se dit... pourvu que je dise pas une erreur, un truc, enfin bref, un truc qui va le mettre en dehors, vous voyez, c'est pas une discussion de salon, quoi. Et alors ça m'a poussé énormément, ça, ces questions, à travailler de mon côté, aller plus loin que ce que j'avais déjà entendu ou appris, aller plus loin parce que c'était parfois assez vital, ce genre de truc, voilà.
C'est ça qui vous a mis, donc en tout cas, enfin, entre autres, peut-être sur la piste des indispensables, c'est ce que vous avez dit, même si c'est venu plus tard, s'il a participé en tout cas.
Voilà, je pense que ça a préparé, parce que comme j'étais journaliste rédactionnel et puis que je voyais les jeunes en parallèle, je me disais qu'il fallait trouver les bons mots pour expliquer des choses aux gens. Je voyais qu'il y avait une sorte d'hémorragie dans le christianisme, tout le monde quittait, hein, trouvait ça, choisissait une sorte de non-croyance, bon, et il me semblait qu'on était invité à travailler pour essayer d'aider les gens à voir si c'était pas pour des mauvaises raisons qu'ils quittaient, voyez.
Alors j'ai lu aussi que vous avez lancé un journal étudiant, devenu un fanzine de bande dessinée intitulé PLG, plein la gueule. Qu'est-ce que c'était ce fanzine?
C'est parce que simplement j'ai aidé deux jeunes que j'avais rencontrés par le biais des études et qui avaient voulu faire un journal amateur de BD. Ils avaient choisi de l'appeler plein la gueule pour pas un rond. Et j'avais accepté de les aider parce que ça n'avait pas marché leur journal. Mais je leur ai dit, c'est un peu idiot ce titre, on ferait mieux de s'amuser à trouver des nouvelles explications pour les initiales PLG, PPUR, ça serait mieux de trouver petit pinceau ultra rapide par exemple, ou peindre la girafe pour pigeonner un réformé, vous voyez, des tas de trucs possibles. Et ils ont dit oui, bonne idée, c'est génial et tout. Et puis je leur proposais aussi une formule qui consistait non pas à publier simplement nos BD à nous, qu'on va vendre après à nos parents, nos familles, nos amis, mais à publier des auteurs connus en BD, et publier en couverture, faire des interviews de stars comme Mébius, Bilal, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, moi, j'avais déjà commencé à aller chez des auteurs comme ça parce que ça m'intéressait. Et ça leur paraissait invraisemblable, mais on a réussi à le faire, continuer de le faire, et ça, c'est ça qui a fait beaucoup connaître ce journal. Voilà.
Vous sauriez dire pourquoi, enfin, naturellement, vous avez eu envie de faire de la BD, ou vous sauriez dire aujourd'hui, rétrospectivement, ce qui vous a attiré en...
Ah, je ne sais pas, mais c'était une évidence quand j'ai découvert le journal de Tintin, quand j'avais, je sais pas, 8 ou 9 ans, et puis Spirou, et puis ensuite les albums. Moi, j'ai presque appris à lire en regardant les albums de Tintin de mes grands cousins, hein, puisque je n'avais pas de frère aîné. Et je trouvais ça fascinant qu'on puisse raconter des histoires comme ça, qu'on puisse les lire à son rythme. C'est mieux que le cinéma, mieux que le théâtre. Enfin, c'est mieux que le livre. Enfin, c'était une époque où c'était très controversé, la BD, hein, parmi mes amis. C'est tout juste s'ils avaient le droit dans leur famille de lire Tintin. Tout le reste était interdit. Bon, Astérix a été ensuite autorisé, mais c'était le maximum. Moi, j'avais de la chance. Mes parents n'étaient pas contre. Je pense qu'ils ont dû voir que c'était peut-être une première étape vers la lecture de vrais livres. Et de fait, c'était mon cas. Ouais.
Alors après, vous avez aussi travaillé donc pour Tintin Reporter, la rédaction prestigieuse de Tintin Reporter. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, peut-être pour ceux qui sont plus jeunes? Qu'est-ce que c'était que cette rédaction et qu'est-ce que vous y avez fait?
Eh ben écoutez, c'était un journal, une nouvelle version du journal Tintin qui existait depuis après la guerre de 40, hein, par Hergé, etc. Là, c'était une nouvelle version, en accord avec la fondation Hergé d'ailleurs, avec qui je travaillais, qui voulait de nouveau cibler les jeunes de 14, 15, 17 ans, etc. et qui proposait une formule 20 pages magazine, reportage, puisque Tintin est journaliste. Et 20 pages BD. Et moi, j'ai été rédacteur en chef, responsable des 20 pages BD chaque semaine. Alors, il fallait lancer des nouvelles rubriques, créer des trucs.
C'est énorme, ça, 20 pages par semaine.
Oui, mais c'était passionnant et ça m'a fait rencontrer des tas de jeunes auteurs à qui j'ai donné une chance de démarrer. D'ailleurs, maintenant, il y en a qui sont contents quand on se revoit dans des festivals comme Angoulême et tout ça. Et puis, c'était passionnant aussi avec certaines auteurs beaucoup plus connus. Voilà. Malheureusement, il y a eu toujours des questions financières dans ces choses-là. Et à un moment donné, l'expérience s'est arrêtée. Mais c'était une belle aventure. Ouais.
Alors, je ne sais pas exactement si tout ça est dans l'ordre. Hein, vous allez m'aider. Mais en tout cas, vous avez maintenant une longue carrière d'illustrateur, vous diriez, pour résumer. C'est
illustrateur indépendant, oui.
Illustrateur indépendant. Après, j'ai fait ça. Vous avez travaillé donc pour un certain nombre de grandes entreprises, hein, je les cite, Lafarge, Leroy Merlin, j'ai même vu que vous avez travaillé pour France 2 ou France 3. Vous étiez entre guillemets multicasquette, vous avez travaillé aussi pour la presse confessionnelle, pas seulement, pour les maisons d'édition. Je sais pas, avant qu'on parle peut-être de vos BD sur les vies de saints, est-ce qu'il y a... quelques travaux que vous voulez, qui illustrent un petit peu votre carrière.
Disons que pour résumer, la chance que j'avais pour certains journaux ou entreprises, c'est de pouvoir répondre à des demandes dans des styles assez variés, vous voyez, style réaliste, le style portrait, le style BD, le style humour. Puis assez vite, on m'a surtout demandé des dessins d'humour sur des sujets sérieux ou graves. Par exemple, au journal La Croix, aux Familles Chrétiennes, tout ça. Des dessins qui puissent faire réfléchir, voilà. Et donc, ça aussi, ça m'a permis d'aiguiser cet outil. Quelqu'un me demandait si c'était une arme, l'humour, dans la vie spirituelle ou dans le christianisme. Si c'était une arme, ça serait un pistolet à eau, un pistolet à eau pour rafraîchir un peu tout ce qu'on peut dire là-dedans et qui parfois manque un peu d'oxygène et de rafraîchissement. Mais voilà, il y a pas d'arme. C'est pas, je n'aime guère la guerre. Mais voilà, je pense que c'est un outil très très précieux, oui, pour dire des choses qui vont rester. Il y a des gens qui se rappellent de certains dessins assez anciens parce que ça les a marqués, qui m'en parlent quand on se voit, voilà.
C'est vrai, c'est mon cas aussi, je pourrais en citer, mais je le ferai pas parce que... Donc parmi vos expériences professionnelles, enfin en tout cas, vous avez une longue liste d'ouvrages à votre actif, en dehors de cette série qui est peut-être plus connue, qui s'appelle Les Indispensables, et donc un certain nombre de BD de vie de saint, donc entre autres sur Daniel Brottier, fondateur donc des Imprentières Follin d'Auteuil, et puis entre autres donc sur Bernadette, voilà, sainte bien connue chez nous, s'il en est, Bernadette affaire non classée. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot aussi de ces vie de saint, ce qui vous a lancé là-dedans? Et c'est pas facile de faire des vies de saints, on imagine. Enfin, c'est un exercice de style très particulier. Ça peut vite être passéiste ou être un petit peu.
Ouais. Pour ça, d'ailleurs, au départ, j'ai refusé. Enfin, je me disais, je ferais jamais ça parce que c'est toujours un peu la même chose. Bon. Et puis, c'est une personne à l'époque de Edifa, Famille Chrétienne, tout ça. Enfin, ces éditions sont venues vers moi pour me demander en urgence quelque chose sur la vie de Bernadette de Lourdes pour les 150 ans de. Je crois que c'est. Enfin, pour l'anniversaire.
150 ans des apparitions, oui.
Des apparitions. Et alors, j'ai accepté, parce que je pensais qu'on devait bien ça à Bernadette, d'essayer de raconter sa vie correctement et en BD. Enfin, il y avait déjà eu des choses, d'ailleurs, très bien faites, mais il fallait réactualiser, ça n'allait plus tellement pour notre époque. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Je connaissais déjà le sujet, je m'y étais intéressé. J'avais emmené des groupes de jeunes à Lourdes plusieurs fois, bon... Et chaque fois, on essaye de raconter, même oralement, à des jeunes, qu'est-ce que c'est que cette Bernadette, pour la rendre vivante, sympathique, comme elle est d'ailleurs, mais elle est souvent recouverte par beaucoup de choses, comme tous les saints. Les saints, généralement, pour nos contemporains, sont d'abord des statues, des statues parfois poussiéreuses dans les églises. Bon, il s'agit de rendre ce service aux saints, de restituer à leur vraie vie, c'est-à-dire enlever la poussière, enlever le plâtre, et qu'ils puissent bouger et être passionnants, et c'est le cas. Et alors j'ai fait 7 ou 8 vies de saints, je pense, comme ça. C'est uniquement le scénario, c'est un autre dessinateur qui fait le dessin réaliste, il y en a eu plusieurs. Et puis là, il y a une nouveauté, c'est qu'on va... Il y en a une qui va sortir en avant-première pour Angoulême fin janvier prochain sur Marie, mère du Christ. Vous voyez, donc c'est
rien que ça.
Après Bernadette, finalement, vous voyez, la boucle est bouclée, pour ainsi dire. C'est Marie elle-même qu'on m'a demandé de raconter.
Donc Paul devenir un homme nouveau aussi, oui. Monsieur Vincent, la vie à sauver, je disais Daniel Brottier, Bernadette. Sur Bernadette, je ne sais pas, vous avez dû bien creuser la question,
ouais.
Est-ce que vous auriez des choses à nous partager sur Bernadette, à partager avec nos auditeurs?
Bernadette, elle est incroyable, D'abord, c'est une petite fille vraiment famille du Quart-Monde, vraiment pauvre, et puis sa relation à cette personne qu'elle voit est tout à fait étonnante, parce que souvent on oublie qu'au début elle l'appelle Akero, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose. Et puis elle voit bien que c'est original puisque les autres ne la voient pas, donc elle seule voit ce quelque chose ou quelqu'un. Et puis ensuite elle l'appelle la fille pendant un certain temps, et puis elle finit par l'appeler la dame. Mais on se rend bien compte qu'elle fait ça pour faire plaisir aux gens, parce que tout le monde dit mais c'est la Sainte Vierge, demande-lui comment elle s'appelle, elle lui demande et l'autre ne répond pas. Et alors elle finit par l'appeler madame pour faire plaisir aux gens, mais quand on regarde de près, en fait elle pense que c'est une fille. Pourquoi? Parce que quand elle décrit ce qu'elle a vu au sculpteur qui va faire la fameuse statue qu'on connaît, eh bien, elle lui explique que c'est une fille qui lui ressemble, qui elle a pratiquement le même âge. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont pas du tout connues sur Lourdes. On raconte aussi, plusieurs témoins racontent, et il y a des gens qui ont du mal à le croire, qu'elle a ri pendant au moins une des apparitions. Vous voyez, plusieurs témoins, dont Jean-Baptiste Estrade, qui était un des qui a écrit un livre là-dessus, qui était avec sa sœur, qui habitait la même maison que le commissaire Jacomet, donc qui voyait, suivait ça de près, qui d'ailleurs était au début très très incrédule, et puis qui finalement a vu que c'était vrai tout ça, est devenu un des meilleurs amis de Bernadette, nous raconte qu'un jour, en écoutant Marie, elle est tordue de rire. Tordu de rire, c'est loin du sourire. Alors, tant mieux qu'il y ait eu des sourires, mais...
C'est dit tel quel, tordu de rire.
C'est dans les archives, comme une sorte de contention, dit le texte. Vous voyez, le mot tordu n'existe pas à cette époque, peut-être, mais une sorte de contention comme un fou rire. Voilà, c'est ça le témoignage. Et c'est dans les archives de Lourdes, qui existent depuis 150 ans, dans les archives de Lourdes. Mais vous savez, les gens vont un peu comme des archéologues travailler dans les archives, et puis ils retirent ce qui est précieux pour eux. Alors, ce rire était peut-être trop en avance sur notre temps. Aujourd'hui... Les Dominicains, qui sont assez impliqués à Lourdes avec le rosaire, eh bien, sont eux qui m'ont donné cette information. Moi, je ne suis pas allé dans les archives personnellement, je n'y avais pas accès peut-être, mais des Dominicains voilà, du CERF m'ont donné ces textes-là, c'est remarquable.
Voilà, donc en tout cas, c'est un certain nombre de BD à redécouvrir. J'en donne le titre donc, de cette BD, Bernadette, affaire non classée. Ça fait rêver de prendre du temps comme ça, de faire un scénario sur des vies de saints.
Ouais.
C'est vrai que ça doit être en tout cas un travail vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot avant qu'on fasse une première pause? Comment dire, quelques mots d'introduction sur cette série, donc Les Indispensables. Vous en êtes donc, si je ne me trompe pas, au 7e volume, d'ailleurs c'est marqué
7e.
Ici. Voilà, vous disiez donc, quand vous avez rencontré tous ces jeunes à la Fondation d'Auteuil, ça vous avait peut-être. C'était
éveillé,
le début en fait.
Ouais.
Comment c'est vous est venu et puis quel est le propos?
Voilà, bah la question est, est-ce qu'il y a moyen de savoir si le christianisme est vrai ou pas? Voilà. Parce que si c'est pas vrai, ça nous intéresse pas, hein, et si c'est vrai, alors là, ça peut intéresser d'autres gens que nous. Alors, la méthode consiste à regarder tout ce qui a été dit, non pas en théologie, non pas en philosophie, mais sur les représentations du monde, vous voyez, dans l'Antiquité. Hein. La Bible fait partie des textes de l'Antiquité, avant Jésus-Christ, bon... comme les philosophes grecs, comme la pensée de l'Égypte ancienne, comme l'hindouisme, voilà, toutes ces choses, tous ces parcours, on va dire, philosophiques, religieux, nous donnent une représentation du monde. Est-ce que le soleil est éternel ou pas? Est-ce que la terre est éternelle ou pas? Et les êtres vivants, etc. Vous voyez, ils ont tous leur représentation du monde qui a, on va dire, trois ou quatre grands volets. Comment est fait le ciel, comment sont faits les êtres vivants, comment sont faits les êtres humains, et qui a fait ça? Est-ce qu'il y a un dieu, plusieurs, ou pas du tout? Bon. Et tant qu'on ne pouvait pas vérifier, eh bien, tout le monde, tous les philosophes, tous les sages, mages, tous les religieux pouvaient dire absolument tout ce qu'ils voulaient. Vous voyez, il n'y avait aucun contrôle, on ne pouvait pas vérifier. Mais la nouveauté exceptionnelle de notre époque, qui date d'il y a à peu près 50 ans, enfin, vous voyez, depuis le milieu du XXe siècle, c'est que ça y est. On ne peut plus dire n'importe quoi parce qu'on peut vérifier. Le soleil, nous savons qu'il n'est pas éternel, il a un commencement, il a commencé il y a 4,5 milliards d'années. La planète Terre, pareil. Donc toutes les philosophies, ou plutôt toutes les représentations du monde qui nous disent que la planète Terre est éternelle, elle s'effondre. Vous voyez, c'est faux. C'est la philosophie qui s'y rattache est fausse. Voilà. Alors, ou la religion. Vous voyez, donc ça nous aide à faire le tri. Et on peut dire que grâce à ce travail phénoménal des hommes et des femmes qui ont fait de la recherche, eh bien, nous sommes libérés de plein de fausses croyances, et, qu'elles soient scientifiques, pré-scientifiques, philosophiques ou religieuses, et nous y voyons beaucoup plus clair. Et donc, aujourd'hui, la question de Dieu se pose de façon beaucoup plus claire et rationnelle qu'autrefois. Ça restera toujours la foi, puisqu'on n'a pas de preuve qu'un Dieu existe ou pas, vous voyez, on n'aura jamais de preuve. Donc, ça restera un acte de confiance, mais cet acte de confiance peut s'appuyer sur le réel, de façon étonnante, vous voyez. Alors ça, c'est la démarche des indispensables. On fait une enquête pour confronter au réel tous les grands courants de représentation du monde dans l'Antiquité.
Alors du coup, on va, enfin fort, je le confesse à l'antenne, je n'ai lu que le dernier album, mais grâce à vous, on va pouvoir se promener dans différents albums. En tout cas, j'ai essayé d'avoir quelques idées de ce qui a été dit dans les albums précédents, à faire une pause.
Merci.
J'ai oublié de vous demander aussi comment vous étiez, enfin, revenu à la foi. Vous avez l'habitude d'en parler, c'était, semble-t-il, à Thésée. Peut-être que vous pourrez en dire un mot.
D'accord.
Après cette pause musicale.
Thank you. plaisance.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc Vivante Église ce matin donc sur Brunner, que l'on reçoit et qui nous fait l'amitié de passer par les studios de Radio Présence ce matin pour parler de lui, parler de sa carrière, de ses ouvrages, de la série des Indispensables et donc du dernier album Les Jours Effacés, paru aux éditions Brunner. Alors vous nous avez introduit donc cette série sur les Indispensables. Peut-être on peut choisir quelques sujets que vous évoquez dans vos différents albums. On s'est dit qu'on allait commencer par parler de la théorie de l'évolution. Alors, pour un certain nombre de chrétiens, pour le grand public, l'Église a tout faux parce qu'elle imagine des choses, ou alors elle a tendance à favoriser... Enfin, on a l'impression qu'elle est créationniste, comme on dit. Peut-être que vous pourrez expliquer ce que c'est. Mais aussi, côté chrétien, on regarde toujours avec la théorie de l'évolution avec beaucoup de méfiance. Alors, ce premier sujet, sujet d'importance.
Alors, c'est un sujet important. C'est pour ça que j'ai tenu à le traiter assez vite. C'est l'album 2. Il est très délicat, et d'ailleurs je l'ai complété un peu avec le 3 qui parle encore du hasard. Mais disons que, comme point de départ pour rassurer les auditeurs...
Le titre de l'album, c'est « Un os dans l'évolution ».
Oui, c'est
voilà,
ça.
Pour
rassurer les lecteurs, il faut se rappeler que et le pape Benoît XVI et le pape François actuel ont dit tous les deux, chacun à leur façon, il n'y a aucune incompatibilité entre création et évolution. Ça, c'est très important parce que là, justement, en disant ça, le pape Benoît XVI a commencé à sortir cette problématique-là d'un faux problème. Quand un problème est mal posé, si vous voulez, il n'a jamais de solution. Et on se retrouvait avec une véritable guerre, deux camps retranchés qui ont creusé leur comme en 14, là, des tranchées, justement. D'un côté, les évolutionnistes darwiniens athées, si vous voulez, qui prétendent avoir les sciences de leur côté. Et en face, il y a eu la réaction des chrétiens ou des juifs, peut-être d'autres, qui ont dit « Attention, ce que vous nous racontez n'est pas dans la Bible, donc c'est vous qui êtes menteur, parce qu'entre la Bible et les sciences, il n'y a pas photo. La Bible, c'est Dieu, et les sciences, c'est rien, donc c'est nul, donc nous ne tiendrons plus jamais compte des sciences, elles sont menteuses. Ouais. » Bon. Si on avance avec ça, on n'ira pas loin, parce que cette guerre va se continuer. Et à chaque jeune qui arrive à l'âge de 12-13 ans, on lui demande « Tu choisis quel camp ?» l'un ou l'autre, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et le jeune a envie de dire, mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas d'autre ? Alors, si... moi, ce que je voudrais faire avec mes BD, c'est montrer, justement, un peu comme le pape, qu'il y a, entre ces deux extrêmes, un chemin de crête. Un chemin de crête qui est au sommet, qui est un peu difficile, mais qui est, en s'appuyant sur le réel, eh bien, voir... comment on peut avancer ?
Alors, si vous deviez nous mettre l'eau à la bouche, quel est ce chemin de crête ?
Ce chemin de crête, c'est tout simplement de dire... On ne peut pas faire abstraction du réel. Hein. Le réel, comme dit... Si on refuse le réel comme font les créationnistes américains, c'est simple.
Donc les créationnistes, c'est ceux qui prétendent que le monde s'est créé de fait comme c'est décrit dans l'écriture.
En 6 jours, voilà. Ouais. Il ne faut pas confondre. Souvent, on croit que créationnistes, c'est ceux qui croient à la création. Mais non, ceux qui sont créationnistes, sous-entendu américains, sont ceux qui sont fondamentalistes et qui disent... Puisqu'il y a marqué 6 jours dans la Bible, c'est 6 jours, la création est terminée, elle a eu lieu au début, d'ailleurs le monde n'a que 5 ou 6 000 ans, les dinosaures n'ont pas existé, etc.
Ça paraît risible, mais ils sont assez nombreux quand même aux États-Unis.
C'est ça qui est curieux, ils sont très nombreux, il y a même des musées, c'est-à-dire qu'il y a une grosse campagne, il y a beaucoup d'argent mis là-dedans pour essayer de faire adhérer ça, et a priori, ça semble être la seule voie pour les croyants, là-bas, presque. Heureusement, il y a des catholiques qui ne croient pas ça là-bas, hein. C'est souvent réservé au courant très... évangélique, pentecôtiste, fondamentaliste. Bon. Mais, si vous voulez, on n'ira pas loin avec ça. Et c'est quelque chose qui ridiculise un peu le christianisme, hein, puisque, justement, ça refuse le réel. Bon. Moi, je dis, non, appuyons-nous sur le réel, observons qu'il y a bel et bien un développement qui va du plus simple vers le plus complexe, hein, que les formes vivantes sont passés du monocellulaire à une seule cellule, il y a 3,5 milliards d'années, un message génétique très simple, à 3,5 milliards d'années plus tard, des êtres humains extrêmement complexes, avec des cerveaux qui sont la merveille de la création. On n'a jamais trouvé mieux encore dans le monde connu, de complexification, d'intelligence pour créer ça. Donc il y a bien une montée, il y a bien une progression, et à juste titre, si on veut, on peut l'appeler évolution. Vous voyez ? Ça, l'évolution, ce n'est pas ce n'est pas idéologique, c'est un constat.
Même si on sait que la théorie de l'évolution, présentée par Darwin, on y ajoute aujourd'hui un certain nombre de modifications.
Disons que Darwin a eu le mérite de comprendre, avec d'autres avant lui, comme Lamarck et Buffon, que les espèces vont du simple au complexe et qu'il y a une évolution. Le problème, ce n'est pas Darwin, c'est les amis de Darwin, dont Darwin s'est fait influencer ensuite par eux, qui étaient tous athées, qui refusaient absolument la Bible, tout le christianisme, etc., et tout le judaïsme, et qui ont dit, génial, puisqu'il y a une évolution, nous allons dire, elle se fait toute seule. Elle se fait toute seule, sans aucune intelligence organisatrice, pas besoin de Dieu, votre Dieu, vous pouvez le mettre à la poubelle. Voyez ? Donc c'était insupportable, évidemment, pour les chrétiens ou pour les juifs, c'est pour ça qu'ils ont réagi, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, on a du recul par rapport à Darwin, puisque ça avait lieu il y a 150 ans, et nous pouvons dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe dans l'évolution ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'un mammouth, finalement, ait des descendants éléphants ? D'Afrique ou d'Asie, qui sont beaucoup plus complexes que lui, plus intelligents et plus de mémoire. Bon. C'est d'ailleurs comme les ordinateurs, hein, réduction et augmentation de mémoire. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on pourrait dire que le message génétique qui fabriquait le mammouth, avec toutes les instructions pour fabriquer le mammouth, qui était donc dans chaque cellule de ce mammouth, c'est comme un petit livre, hein, ou une partition de musique, ou un plan d'architecte. Donc, ce message génétique, pour fabriquer l'éléphant, c'est le même que celui du mammouth auquel est ajouté un ou plusieurs chapitres génétiques qui donnent les spécificités du mammouth. Même chose entre le chimpanzé, qui n'est pas notre ancêtre, contrairement à ce que croyaient Darwin et ses amis, mais plutôt un cousin éloigné qui remonte à 7 millions d'années, pour faire l'homme, eh bien vous prenez le message génétique d'un chimpanzé, il faut être Dieu pour ça, hein. Nous on ne sait pas le faire, hein. Et vous ajoutez un certain nombre de chapitres. Et avec ça, ça y est, vous avez un homme. Vous voyez, vous avez le livre complet du message génétique pour faire un homme. Alors, ce qui nous étonne beaucoup, c'est qu'on apprend que le chimpanzé partage avec moi 98% de mon message génétique. Vous voyez ? Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose historiquement en rapport. Ça veut bien dire qu'il y a bien, si vous voulez, des parentés et des filiations entre les espèces. Sinon, si Dieu avait fait l'homme, comme disent les créationnistes, directement, tac, d'un coup, je ne sais pas pourquoi il serait allé mettre 98% du chimpanzé dans mon message génétique qui est dans chacune de mes cellules. Il n'avait pas besoin. Il aurait pu me faire tout neuf.
En l'occurrence, où est ce chemin de crête dans ces cas-là que vous décrivez sur ce sujet ?
Le chemin de crête consiste à dire... J'adopte le réel, je pars du réel, je pars du message génétique, je pars du fait que mon cerveau est constitué de tous les cerveaux des animaux qui me précèdent, etc. Ça, c'est un fait. Mais je ne suis pas obligé d'aller suivre ceux qui tombent d'un côté de la pente en disant « ça se fait tout seul par hasard, il n'y a aucun Dieu pour faire ça ». Et je ne tombe pas non plus de l'autre côté qui dit « Dieu a tout fait et justement, votre message génétique, c'est de la pure apparence ». Vous voyez, enfin, les deux se trompent, et les créationnistes et les évolutionnistes athées. Le vrai chemin, c'est celui du réel, c'est de dire, voyons, comme dit le pape, le fait qu'il y ait une évolution n'a aucune incompatibilité avec le fait d'une création. C'est le même événement, ou plutôt le même événement par étape, qui est observé sous deux angles différents. Il y a objectivement une évolution. Après, on peut faire une discussion philosophique pour savoir s'il y a une création ou pas. Voyez ? Mais le débat n'est pas science contre religion, le débat est entre deux options philosophiques et religieuses, du même fait scientifique.
Alors si on prend une deuxième illustration avec un autre de vos albums qui s'appelle « Le hasard n'écrit pas de message », là c'est sur la théorie du Big Bang.
Oui, c'est-à-dire qu'on démarre. Je démarre chaque album avec une petite histoire vraie sur une découverte. Vous voyez, le précédent, là, c'est un os dans l'évolution, c'est parce qu'on avait découvert le premier os de dinosaure dont on ne savait pas du tout quoi faire parce qu'il n'avait pas de place. La Bible n'en parlait pas d'animaux de 2 mètres comme ça. On ne comprenait pas si le monde était fait en 6 jours, comme on le croyait au temps de Linné et Buffon. On ne pouvait pas comprendre qu'il y a eu des animaux géants qui aient si vite disparu, autant, alors qu'on trouve autant de fossiles. Enfin. Il a fallu tout revoir, de même qu'il a fallu tout revoir au temps de Copernic et Galilée, parce que la vision de Ptolémée était fausse. Vous voyez, constamment, on est obligé de se réadapter parce qu'il y a un os.
Alors, donc, sur cet album,
l'os, c'est...
Le hasard n'écrit pas de message.
Alors, sur celui-là, l'os, c'est le Big Bang. Mais là, l'os n'est pas pour les chrétiens, cette fois-ci, il est pour les athées, parce que figurez-vous que cette découverte du Big Bang a été faite en 1964-65, déclarée en 65. Elle a révolutionné la communauté scientifique internationale, qui dans sa grande majorité était constituée de spinoziens et d'athées, qui refusaient absolument l'idée d'un commencement de l'univers. À l'époque, tout le monde était convaincu que l'univers était éternel. Vous vous rendez compte ? En 1964, on pouvait encore croire, dans la communauté scientifique internationale, que l'univers était éternel. Et voilà une bombe qui arrive, qui dit non, il n'est pas éternel, on a la preuve que l'univers est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'hier, et il était, à un moment donné, il est tout petit, à un moment donné, il commence. Alors, pour être précis, on n'a pas la preuve de l'instant zéro, mais on connaît l'univers depuis l'instant première seconde qui suit l'hypothétique instant zéro, 10^-43. Autrement dit, non pas un millième, un milliardième, un millième, mais un millionième de millième, je ne sais pas comment appeler ça, 42 zéros après la virgule. Nous savons que l'univers est absolument tout petit, il n'y a aucune matière, ce n'est que du rayonnement, de la chaleur et de la lumière, voilà, et de l'information.
Et qu'en même temps, tout est là, dès le début.
Alors, tout n'est pas là, mais tout
est en puissance.
Non, ce n'est pas en puissance. Mais enfin, ça, c'est un débat. Mais c'est plutôt, tel que c'est, ça va rendre possible tout ce qui est ensuite. Mais qui, a priori, n'est pas comme un... Vous voyez, les choses sont en puissance dans un, par exemple, un noyau de cerise. Tout le cerisier est en puissance. Il suffit de mettre de l'eau et de la lumière. Là, il semble que tout ne soit pas en puissance, mais tout soit... Plutôt, c'est comme si cet univers était le nid, la nidation possible de choses qui vont, d'informations qui, a priori, ne sont pas contenues à l'intérieur dès le début. Vous voyez, ils sont plutôt un apport d'informations. Bon, ça se discute, hein, mais...
En tout cas, sur ce sujet, l'Église aussi a pris position, puisqu'elle ne rejette pas du tout la théorie du Big Bang.
Mais ce n'est pas une théorie. Heureusement qu'elle ne le rejette pas, parce que le Big Bang, non seulement est maintenant une certitude, et je pourrais vous montrer comment, pourquoi, par une autre loi de la nature qui s'appelle l'entropie, mais en tout cas, même si on ne remonte pas à l'instant zéro, on voit bien que de toute façon, à partir de ce commencement, eh bien, d'autres commencements vont avoir lieu. Hein, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, cette découverte du Big Bang est je vous dis, absolument en faveur de la pensée biblique et donc chrétienne, puisque la pensée biblique est une des rares qui nous dit ce monde a un commencement, hein, il n'est pas éternel, et il, à la fois il a une croissance et une usure, et il aura une fin, hein, psaume 121. Or, la fin de l'univers, nous la connaissons par, je vous disais, une autre loi de la nature qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, bref, qui nous montre que tout ce qui s'use et tout ce qui finit, a forcément eu un commencement. Enfin bon, ça serait un peu long d'en parler. Mais voilà, et alors avec ce bouquin-là, qui s'appelle « Le hasard n'écrit pas de message », on parle de ça, mais on parle de toutes les implications que ça peut avoir, philosophiques, puisqu'il y avait un philosophe grec qui s'appelait Parménide, et qui a compris une chose très intelligente, qui a compris qu'il n'y avait jamais eu de néant absolu. C'est impossible, l'idée d'un néant vide de toute matière et de tout esprit, c'est impossible. Puisqu'il y a quelque chose aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui, des montagnes, des océans, ça n'a pas pu sortir comme ça tout seul du néant, c'est impossible. Donc soit ça existait depuis toujours, soit c'est créé par une intelligence, un dieu ou plusieurs dieux, vous voyez. Et ça, c'est la seule pensée de toute l'histoire de la philosophie universelle sur laquelle tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec l'idée de Parménide, ce que je raconte là, dans cet album-là, que... Voilà, soit la matière est éternelle, soit c'est elle qui est éternelle, soit il faut qu'il y ait une intelligence, un dieu ou plusieurs qui crée les choses. Bon, étonnant. Alors, on peut choisir le camp qu'on veut, mais si on choisit le camp matérialiste, donc fondé par Parménide et ensuite Démocrite et puis le stoïcisme avec Zénon, enfin ça fait trois courants matérialistes, ben, on voit qu'ils ont besoin que les atomes soient éternels. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, nous savons avec certitude que les atomes ne sont pas éternels. Dans notre univers, les atomes ont un commencement qui est daté 380 000 ans après le Big Bang. À cette date précise, premiers atomes existent, là aussi, comme pour Darwin, les plus simples en premier, et ça ira vers les plus complexes. Une centaine d'espèces d'atomes, à commencer par l'hydrogène. Voilà. Tous les atomes d'hydrogène sont créés, apparaissent dans l'univers à cause du refroidissement de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, et c'est aussi le moment où la lumière commence à voyager dans l'univers. Elle était déjà là, mais là, on va pouvoir la voir et la capter. Et c'est comme ça qu'on a les plus anciennes photos de notre univers, qu'on a vues dans le journal il y a à peu près un an. Vous savez, une sorte d'ovale avec du vert, du bleu, du rouge. Ce sont ce qu'on appelle des grumeaux, mais n'empêche que c'est la photo que peuvent prendre les télescopes. Qui sont la plus lointaine image de la lumière dans l'univers, c'est-à-dire il y a plus de 13 milliards d'années. Plus de 13 milliards d'années. Quoi.
Donc deuxième illustration qui donne envie de vous lire ou de vous relire, donc avec cet album, Le hasard n'écrit pas de message. Mmh. On avait sélectionné un troisième thème, c'est le péché originel. Oui. Alors on y reviendra, mais aujourd'hui, donc, vous battez la campagne, en tout cas vous allez un peu partout en France pour parler de vos albums. Vous dites que vous intervenez beaucoup dans des établissements scolaires, donc ce sont des questions qui reviennent. Et le péché originel, c'est donc une question que vous avez traitée aussi dans un de vos albums, Le secret de l'Adam inachevé. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi de cette apparente contradiction ? C'est-à-dire que pour le grand public, le péché originel, c'est du chinois, alors que pour nous chrétiens, c'est souvent quelque chose auquel on s'accroche comme une clé d'explication de l'origine.
Ouais, c'est pour ça que c'est très délicat. C'est pratiquement, j'avais pas pensé, mais on pourrait comparer ça avec le problème évolution-création. Vous voyez, avec tous les malentendus qu'il peut y avoir. Si on parle d'évolution, on va croire qu'on est athée évolutionniste, vous voyez. Alors qu'en fait, non, l'évolution, c'est d'abord un fait scientifique. Bon, la question du péché originel se pose en d'autres termes, disons. Les indispensables, qui s'appuient donc sur les sciences, non pas pour mettre les sciences au-dessus de la philo et de la théologie, mais qui utilisent les sciences pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire rien d'autre qu'une paire de lunettes. Mais, comme dit saint Augustin, une paire de lunettes qui va nous apprendre à lire cet univers. Et saint Augustin, là, disait, en l'an 400 avant Jésus-Christ, c'est simple, si on veut connaître le créateur de toutes choses, il y a deux livres. Deux livres. Alors, le premier livre, c'est toute la Révélation, Ancien et Nouveau Testament réunis, toute la Bible des Juifs et le Nouveau Testament chrétien. Ça, c'est le premier livre. Mais alors, quel est le deuxième ? Augustin nous dit, le deuxième, c'est le livre de la création. C'est un livre symbolique. Toute la création qui est là autour de nous, toute cette nature, tout cet univers qui est là, tout ce monde, si on se penche dessus, si on apprend à le lire, ce livre, eh bien, il nous parle du Créateur. Vous vous rendez compte, c'était absolument incroyable de dire ça. Il y a 1600 ans, alors que justement, on était incapable de le lire à ce moment-là. Hein. La Terre, aux yeux des gens, était plate. Le monde n'avait pas plus de 5000 ans, comme les créationnistes d'aujourd'hui. Et il était tout petit, c'était la voûte céleste au-dessus de nos têtes. On était loin des 200 milliards de galaxies contenant chacune 200 milliards de soleils. Bon. Voilà, n'empêche que saint Augustin a eu cette intuition. Et grâce à la recherche scientifique, nous avons, les êtres humains, ont fabriqué les lunettes pour apprendre à lire cet univers, comme disait saint Augustin. Et aujourd'hui, eh bien, depuis une cinquantaine d'années, on n'a pas fini, mais on a déjà pas mal lu de choses là-dessus. On n'a plus besoin d'interpréter comme autrefois. Et en faisant ça, eh bien, on s'aperçoit voilà, qu'il y a une progression, évolution, que les animaux, les êtres humains sont rattachés aux animaux, que tout cela n'est pas contradictoire avec la Bible. Si nous lisons bien la Bible, nous voyons que les 6 jours de la création ne sont pas une semaine, ça veut dire des longues étapes.
Mais alors sur le péché originel ?
Alors sur le péché originel, j'y viens, parce que saint Augustin y a contribué d'ailleurs. Vous voyez, le péché originel fait partie de la théologie chrétienne. Il est absent de la théologie biblique, complètement, des Hébreux, si vous voulez. Hein. Bien qu'il y ait Adam et Ève, hein, eux n'ont absolument pas vu un péché originel. C'est pour ça que je dis que c'est absent. Et c'est aussi quasiment absent de la pensée de la théologie orthodoxe, orientale, parce que ils n'ont pas suivi Augustin là-dessus. Bon, ils ont suivi Origène, qui a des points un peu communs, mais c'est un peu différent. Alors, donc, les indispensables qui se servent de l'outil scientifique sont incapables de dire quoi que ce soit sur le péché originel. Et si, normalement, si vous m'interrogez là-dessus, je vous dis, je ne sais rien de plus, puisque c'est comme si vous me demandiez en tant qu'indispensable de faire une enquête sur les anges. Ben, je ne peux pas, je peux juste faire une enquête sur les peintres qui ont peint les anges, sur les représentations, vous voyez, mais pas sur les anges eux-mêmes, puisque je n'ai pas de traces, ils n'appartiennent pas au monde physique. Je ne peux pas non plus prendre un microscope et regarder une hostie pour voir si la présence réelle est là. Je ne peux pas non plus vous dire si les sacrements sont valides ou pas. Je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, on peut dire d'une certaine façon, Brunner ne parle absolument pas du péché originel.
Et pourtant, vous en parlez.
Et pourtant, j'en parle, donc, comme je vous disais, sous un autre angle. C'est-à-dire sous l'angle, voyons quand ce mot a commencé, par exemple, dans le vocabulaire chrétien? Est-ce qu'il est déjà dans le vocabulaire biblique? Vous voyez, ça, c'est une enquête historique. C'est pas une, enfin, c'est une enquête sur les représentations, on va dire, du péché originel. De même, pourquoi est-ce que j'ai jugé bon d'aborder cette question sous cet angle-là, scientifique et historique? C'est parce que les jeunes que je rencontre...
Excusez-moi, juste, je vous interromps, en fait, parce que vous laissez entendre aussi dans votre album, donc Les Jours Effacés, où vous parlez, ouais, en partie de cette question, vous répondez, alors c'est vos personnages qui mènent l'enquête, hein, mais vous répondez quand même d'une certaine manière en expliquant que... on est en droit, on serait en droit donc de s'interroger sur ce que l'idée qu'on a du péché originel, parce que la mort préexistait dans le monde au premier homme et à la première femme, en tout cas que la mort existait déjà, c'est
alors,
ça ?
Très bonne question. Alors j'allais y venir. C'est ça justement le problème, c'est que les jeunes que je rencontre, si jamais ils abordent ces questions-là, puisqu'ils posent plein de questions, les adultes aussi, hein, dans les conférences, et les gens me disent, mais alors, que faites-vous du péché originel dans tout ça? Vous faites une enquête par rapport au réel. Qu'est-ce que vous faites de cette idée-là que nous avons, nous, dans laquelle nous sommes nés, nous avons été éduqués, et nos enfants aussi? Et je réponds, bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous en dire. J'en dis ce que dit l'Évangile, je ne peux pas faire plus. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il dit l'Évangile? Bah, l'Évangile n'en dit rien. Ah bon, alors, tiens, il n'y a pas le mot? Non, il n'y a pas le mot. Il y a le concept? Non. Bon, alors, vous voyez, ça m'interpelle. Et comme en plus, il se trouve que non pas le péché originel, mais les représentations du péché originel, par exemple ce qui touche la mort et ce qui touche la maladie ou les volcans, tout ça, font fuir les gens de l'Église catholique. C'est un constat que j'observe depuis 10 ans que je fais des conférences, et même avant avec les orphelins d'Auteuil. Bon. Donc moi, la question que je pose, c'est, ou plutôt, comme vous disiez, puisque si l'Église romaine se contentait de dire « il y a un péché originel qui explique que nous avons une tendance à faire du mal aux autres », bon, je dirais « ok, ça je peux rien dire ». Mais comme elle ajoute, ou plutôt certains dans l'Église ajoutent, le péché originel fait que la maladie et la mort existent dans le monde. Bon, là, vous voyez, la théologie est sortie un peu de son rôle et elle nous donne une représentation du monde. Et comme mon boulot, c'est d'étudier les représentations du monde... Ben, soit je me dis, je veux pas d'ennuis avec personne et j'étudie pas ça parce que c'est pestiféré, je vais forcément me faire des ennuis. Soit je me dis, allez, soyons honnêtes, ça va peut-être éviter à un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes de quitter l'Église si on leur donne une explication intéressante de pourquoi on a dit ça et quels sont les enjeux. Et c'est ça que je fais. Et on constate très bien, et les enfants de 12 ans savent très bien, que la maladie existait bien avant que les hommes soient sur Terre, vous voyez ? Même si on situe les hommes il y a 800 millions d'années, ou je sais pas, enfin on peut même donner des dates très anciennes, tout le monde sait très bien que les dinosaures mouraient et étaient malades bien avant que des hommes soient là pour faire un péché qui punisse tout le monde, vous voyez. Donc il y a un vrai problème. Alors, à partir de là, soit les gens vont tirer la conclusion, ah ben vous voyez, l'Église dit n'importe quoi, donc il faut la quitter. Moi, c'est le contraire que j'essaye d'obtenir. Donc c'est pour ça que je fais un travail supplémentaire pour regarder... dans la même église romaine, quelle est la tradition? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que cette représentation avec la mort a toujours existé? Ou est-ce qu'il y a d'autres représentations du même question péché originel contre laquelle je n'ai aucun problème? Moi, l'église le dit, donc ça existe. Mais qu'est-ce que ça signifie, peccatum original? Et je m'aperçois que, par exemple, un saint Irénée, 2 siècles avant saint Augustin, avait une autre explication du monde. Donc c'est intéressant de la faire connaître, puisqu'elle n'est pas connue, sauf des spécialistes, bien sûr. Tous les théologiens, tous les prêtres le savent, mais pas nous.
Voilà, donc ça donne envie de vous lire, en tout cas, c'est le gros avantage, et c'est en grande partie le but de cette émission, donc sujet que vous traitez donc dans Le secret de l'Adam inachevé, et puis que vous reprenez plus rapidement dans Les Jours effacés. On va faire une rapide pause musicale, parce que j'aimerais quand même parler un petit peu avec vous, et le temps passe, d'évangélisation, puisque, je le disais, vous intervenez auprès de jeunes, et puis à force d'écrire tous ces albums et ces vides, ça, on imagine que vous avez beaucoup de Fioretti de missions. Ou en tout cas, vous avez des choses à partager sur des gens qui ont été touchés par votre travail.
Merci.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église avec Brunor sur le parcours de ce dessinateur bien connu de certains, auteur entre autres donc d'une série Enquête sur Dieu, les indices pensables, en deux mots, indices pensables. Et donc son dernier album, je rappelle le titre de son dernier album, Les jours effacés. Donc quelque part, des raisons de croire ou des...
Oui, des raisons de croire vérifiables.
Des raisons de croire vérifiables, voilà. Et Dieu sait si dans le contexte français, c'est courageux et audacieux comme entreprise. Alors, je voulais vous poser quelques questions autour de l'évangélisation. Alors, pour l'évangélisation, pour certains, c'est encore un mot difficile à entendre. C'est vrai que ça peut paraître un peu conquérant ou agressif. Vous publiez de temps en temps, enfin, vous avez publié régulièrement des chroniques sur Zénith, et vous en avez publié une récemment, donc adressant vos vœux de 2017. Et vous parlez de l'évangélisation. Vous dites que vous avez une définition pour vous de l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que c'est aussi votre expérience à force de rencontrer des jeunes.
Moi, si on me demande ce que je pense de l'évangélisation, je dis que souvent, voilà, c'est pas une conquête pour moi, ni avancer avec un drapeau, mais c'est plutôt consoler. Hein, là, cette phrase d'Isaïe qui dit... où Dieu dit par la bouche du prophète, consolez, consolez mon peuple. Hein, et il me semble que c'est ça. Voilà, on est chargé, si on a rencontré le Christ, si on connaît le Père, enfin on est chargé de consoler les gens qu'ils connaissent pas finalement et qui sont loin. C'est pas pour aller leur casser les pieds, c'est pas pour avoir des voix supplémentaires ou des gens dans nos églises. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que oui ou non on peut partager ce qui est cher et sans que ce soit, encore une fois, pour les contraindre, les embêter, faire de la morale, etc.
Quoi. Et pourquoi ça serait une consolation ?
C'est une consolation parce que si c'est vrai, c'est consolant, c'est consolateur. Je pense que ceux qui connaissent, ceux qui sont chrétiens savent que c'est consolateur de pouvoir s'adresser, comprendre le monde, s'adresser à celui qui a fait ça... et qui nous indique aussi dans quelle direction nous allons. Hein. On est un petit peu tous comme dans un TGV qui roule à 300 à l'heure, et puis à un moment donné, c'est comme si quelqu'un disait « Mais au fait, vous savez où on va ?»« Ah non, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir d'ailleurs, mais ah ben, qu'est-ce que vous faites en attendant ?»« Ah ben, on s'organise, on s'occupe, vous voyez. » Si on sait où on va, on va faire différemment, on va peut-être s'occuper plus des voisins, enfin... Je pense que c'est globalement consolateur. En tout cas, c'est une parole qui me semble bien représenter ce qu'est l'évangélisation. C'est-à-dire le contraire de convaincre, le contraire de... Ça rejoint un peu Bernadette, d'ailleurs, justement, qui disait « Écoutez, je ne suis pas chargé de vous convaincre que j'ai vu cette dame, je suis juste chargé de vous le dire. » je crois que c'est pareil. On n'est pas...
C'est comme ça que vous commencez, en tout cas, vos vœux 2017. Ouais. Alors, je voulais aussi que vous nous donniez peut-être que... Vous êtes amené donc souvent, et vous êtes venu à Toulouse pour ça, à témoigner devant des jeunes, donc à parler de votre travail. Vous n'avez peut-être pas à nous partager tout ce dont vous leur parlez, parce qu'on imagine quel est votre propos au vu de ce que vous avez dit précédemment. Mais est-ce que vous auriez quelques fioretti, quelques... c'est pareil, en lisant l'un ou l'autre article en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que vos conférences ou vos BD, vos livres, ça touche, et il y a même des gens qui font un chemin de foi
suite à ça.
Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-uns?
Ben écoutez, alors ce que je
fais... Des choses qui vous ont marqué
Oui, ben une des choses qui m'a beaucoup impressionné, il y a déjà... deux, trois ans, c'est un groupe de jeunes, parce que souvent on me dit « Ah, mais c'est peut-être un peu intellectuel, est-ce que ça s'adresse pas surtout aux intellectuels, etc. » Et j'étais très content d'apprendre qu'à Autun, donc en Bourgogne, petite ville, des jeunes d'un LEP, donc pas du tout des intellectuels, un lycée professionnel, en terminale, on leur a prêté un album, le 2 d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, tout ce débat création-évolution par l'aumônier. Hein. Et comme l'aumônier leur a dit, vous savez, je connais Brunor, il demande qu'on vérifie tout ce qu'il dit, aussi bien en conférence que dans les livres. Donc vérifiez tout si vous voulez, etc. Et le jeune convoque trois amis, donc, et ils se retrouvent à quatre, qui sont tous les quatre non-croyants, et ils commencent à vérifier les indices que je donne sur Internet, des bouquins, des profs et tout. Et puis bon, je vous passe tous les détails, mais pour finir... eh ben, ils sont tous inscrits au GMJ, ils ont tous retrouvé un chemin de foi. Il y en a même un qui a réalisé qu'il n'était pas baptisé et qui est allé demander au prêtre de le baptiser. Alors il a été préparé pendant 3 ans et voilà, il a été baptisé à Pâques. Mais c'est quand même inouï. Alors c'est pas moi qui fais ça, mais c'est, vous voyez, c'est intéressant de voir comment la confrontation avec des choses vraies, des indices vérifiables dans un bouquin ou d'une autre façon, là c'était dans une BD, eh bien, si les jeunes, si les lecteurs sont honnêtes et s'ils vérifient, ils s'aperçoivent que voilà, il y a pas de raison de. Et moi, c'était sympa. J'ai fait leur connaissance. Ils sont venus à une des conférences que j'ai organisées là-bas au Tain, les 4, et c'était un bonheur de les voir parce que c'est vraiment des jeunes d'aujourd'hui. Ils sont normaux. Ils sont enfin. Et ils étaient au premier rang et complètement emballés. Ils prenaient des notes. Enfin, c'était voilà. Et puis, alors, il n'y a pas que bon. J'ai pas non plus écho de tout ce qui se passe. Et puis, j'aimerais qu'il y en ait davantage. Mais rien que ça, ça m'aurait suffi pour passer ce temps énorme que j'ai passé à faire tout ça. Voilà, ça n'a pas servi à rien. Une autre fois, c'est un adulte qui me raconte qu'il a mieux compris justement telle question sur le hasard et les statistiques et que c'était ça qui le bloquait. Un jour, un autre me dit que justement cette loi de l'entropie dont on a évoqué un petit peu tout à l'heure, bah, ça l'a aidé à voir que le fait qu'il y ait des choses vivantes, même des plantes, des animaux, des choses, des structures organisées comme ça, que ça existe, c'est forcément un combat contre l'entropie. Donc, il y a forcément une intelligence créatrice derrière. Pourquoi pas le dieu de la Bible ? Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça qui ont lieu. Et pourvu que ça continue. Ouais.
Pour finir, qu'est-ce que vous diriez à ceux justement qui s'interrogent sur l'intérêt de l'évangélisation ou qui peut-être, au contraire, sont craintifs de confronter leur foi à ceux aussi qui seraient craintifs de confronter leur foi à la science.
Justement, moi, je leur dirais... Non, mais alors, confronter sa foi aux sciences, il suffit d'essayer, et si on est croyant, on va voir très vite que ça ne peut que faire grandir la foi, comme disaient les autres. Et en revanche, si on ne sait pas comment évangéliser, parce que c'est très difficile, hein, on se dit, tiens, j'aimerais bien parler du Christ à mon voisin, ma voisine dans le train, comment aborder, on ne sait jamais, ou même des collègues à la cafétéria, ou en famille, des beaux-frères, bon. Le problème, c'est que souvent... Jusqu'ici, on avait pour évangéliser que des thèmes religieux. Genre, ah bah je suis allé à Lourdes, qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi pas, hein, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui vont fermer le rideau dès qu'ils entendent ça. Et là, si vous parlez à votre beau-frère, tiens, tu connais l'âge du soleil ? J'ai appris que ça avait 4,5 milliards d'années. Bon, ah bon, tiens. Et voilà, et on va démarrer sur un truc totalement profane, mais qui en réalité a des tas d'implications, si on veut, philosophiques, religieuses, et qui vont peut-être amener à parler du Dieu de la Bible, parce que les Hébreux étaient originaux de parler de ça. Ouais, c'est très libérateur, c'est extraordinaire ce truc.
Voilà, ou alors vous pouvez offrir donc Les Indispensables de Brunor, paru aux éditions Brunor. Merci beaucoup en tout cas d'être passé par les studios de Radio Présence ce matin. Cette émission a été réalisée par, je rappelle pardon, le titre de votre dernier album, Les Jours Effacés, mais il y en a d'autres puisque c'est le 7e et il faut donc se les procurer, ce que je vais probablement faire.
Merci.
Voilà, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.